Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le pape a ordonné dans la matinée de samedi 31 mai à la basilique Saint-Pierre 11 prêtres pour le diocèse de Rome. Il leur a rappelé que l'identité du prêtre dépend de l'union avec le Christ, prêtre suprême et éternel. Les détails dans quelques instants dans la page consacrée à la semaine du pape. L'actualité de l'Église nous conduira également au Tchad. Nous nous rendrons notamment au Nigeria, en Égypte et au Soudan dans le cadre de l'actualité politique et sociale sur le continent africain.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec la semaine du pape présentée par Christian Losambé.
Au terme d'une semaine riche en audiences, le pape Léon XIV a procédé samedi 31 mai, en la fête de la Visitation de la Vierge Marie, à l'ordination sacerdotale de 11 diacres pour le diocèse de Rome, dans la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, il les a encouragés à concevoir leur vie à la manière de Jésus, en s'ancrant dans la vie réelle auprès des personnes qu'ils rencontreront, et à faire de la place à tous dans le peuple de Dieu. Suivons à ce propos le compte-rendu de Jean-Benoît Harel.
Non è rumorosa la gioia di Dio, ma realmente cambia la storia.
La joie de Dieu n'est pas bruyante, mais elle change vraiment l'histoire. Et cette joie, il faut la partager autour de vous. Tel était en substance le message du souverain pontife lors de l'ordination sacerdotale de 11 diacres âgés de 28 à 49 ans ce matin. Devant plus de 5000 personnes, il a rappelé que l'identité du prêtre dépend de l'union avec le Christ, prêtre suprême et éternel. C'est donc le modèle du Christ que les nouveaux prêtres devront suivre, d'abord en se consacrant pleinement aux membres du peuple de Dieu qui leur sera confié. C'est à eux que vous vous consacrez, sans faire du don reçu une sorte de privilège, a mis en garde le nouvel évêque de Rome, insistant sur la grande étendue du peuple de Dieu, plus grand que nous le voyons, a-t-il ajouté.
Stiamo dentro il popolo di Dio per poterli stare davanti con una testimonianza credibile.
Nous sommes à l'intérieur du peuple de Dieu, pour nous tenir devant lui, avec un témoignage crédible, a ensuite lancé Léon XIV, insistant sur la transparence de la vie des prêtres. Dès lors, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être crédible, pour reconstruire la crédibilité d'une Église blessée, envoyée à une humanité blessée, au sein d'une création blessée. En concluant, le souverain pontife a souligné la seule richesse que posséderont ces nouveaux prêtres, celle d'être à Dieu. Il n'y a pas de plus grande richesse à apprécier et à partager. C'est la seule richesse qui, partagée, se multiplie, a-t-il terminé avant d'imposer lui-même les mains sur ces 11 hommes, désormais prêtres au service du Christ et de son Église.
Merci Jean-Benoît. Et à l'occasion du centenaire de canonisation de trois saints français, le Saint-Père a évoqué l'héritage chrétien de la France qui imprègne encore profondément la culture du pays et demeure vivant en bien des cœurs. L'évêque de Rome a émis le vœu qu'à travers les exemples de sainte Thérèse de Lisieux, saint Jean-Marie Vianney et saint Jean Eudes, Dieu renouvelle les merveilles qu'il a accomplies dans le passé, dans l'Hexagone. Dans la suite de ses activités de la semaine, le pape a reçu vendredi matin au Vatican les 300 délégués d'associations et de mouvements qui ont participé en 2024 aux arènes de la paix à Vérone. Ce fut l'occasion pour Léon XIV de les remercier pour leur engagement quotidien en faveur de la paix et de souligner combien la société a besoin de témoins d'un style de vie non violent. Le Saint-Père s'est rendu jeudi à Castel Gandolfo, une commune de Rome dans la région du Latium, où se trouve la résidence papale d'été. Cette résidence abrite depuis février 2023 le projet Laudato Si, un espace voulu par le pape François pour l'éducation et la sensibilisation à la protection de la maison commune, dans l'optique écologie intégrale, inspirée de l'encyclique Laudato Si. La salle de presse du Saint-Siège qui a donné l'information a également indiqué que le Saint-Père a visité le palais apostolique que François avait transformé depuis 2016 en un musée ouvert aux visiteurs. En méditant sur la parabole du bon samaritain, le pape Léon XIV a détaché la compassion de la question religieuse. « La compassion est une question d'humanité », a-t-il souligné. Pour sa deuxième audience générale place Saint-Pierre, le souverain pontife a encouragé mercredi les fidèles à imiter le samaritain qui s'arrête simplement parce qu'il est un homme devant un autre homme qui a besoin d'aide. Et en début de semaine, le pape Léon XIV avait réservé une grande surprise aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège et l'Italie en pèlerinage jubilaire pour la paix en Afrique. Dans l'après-midi du lundi 26 mai, en effet, le Saint-Père s'était rendu dans la basilique Saint-Pierre pour les saluer au terme de la messe présidée par le cardinal Francis Arinze. Dans ses mots, le pape avait remercié le continent africain pour le grand témoignage de foi et d'espérance qu'il continue d'offrir au monde entier.
Après la semaine du pape, l'actualité de l'Église nous conduit au Tchad, où Edouard Takadji nous fait part de la prière pour la paix organisée par Mgr Kuraleo Joachim Tarunga, évêque de Mundu, au village de Mandakao, suite à un conflit entre deux communautés durant lesquelles 42 personnes ont trouvé la mort. Il était accompagné d'un pasteur de l'Église évangélique et d'un imam.
Malgré le déploiement des forces de défense et de sécurité au village Mandakao pour assurer la sécurité de la population, la peur est toujours présente car les hommes et les jeunes ont déserté leur village, laissant ainsi les femmes et les enfants, affirme Mgr Kuraleo Joachim Tarunga, évêque du diocèse de Mundu.
Le village est presque vide. On voit quelques vieilles femmes assises sous des manguiers devant leur case, de petites filles et à peu près une dizaine de garçons. Mais la population de Mandakao, qui est un chef-lieu de canton, est dans sa presque totalité, soit en Beauce, soit dans le village voisin.
Les prélats promettent d'investir aux côtés des autres pour ramener la paix dans cette localité.
La douleur est immense. Maintenant, comment faire pour apaiser les cœurs et faire en sorte que la confiance revienne entre ces populations qui ont vécu en harmonie pendant des années et qu'un jour le démon vienne les opposer ainsi. Nous n'avons pas le bâton magique pour aider à ramener la paix. Mais personnellement, je suis déterminé à faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que la paix et surtout la confiance revienne entre ces populations-là.
Edouard Takadji N'Djamena pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Plus de 150 personnes ont péri dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa, dans le centre du Nigeria, où des milliers de personnes ont été déplacées, les secouristes redoutant que le bilan des victimes ne s'alourdisse encore. Par ailleurs, l'armée nigériane a annoncé vendredi avoir tué plus de 60 djihadistes lors d'opérations aériennes et terrestres menées dans le nord-est du pays. Une tempête de grêle inhabituelle en cette saison a frappé samedi la ville égyptienne d'Alexandrie sur la Méditerranée, inondant les routes et endommageant des commerces du front de mer. Alexandrie, la plus grande ville côtière d'Égypte, est particulièrement vulnérable au changement climatique. Elle a déjà subi les effets de l'érosion côtière, de l'élévation du niveau de la mer et des inondations causées par les tempêtes. Au moins 6 personnes ont été tuées vendredi lors d'un bombardement imputé aux paramilitaires dans le centre du Soudan, pays également confronté à une épidémie de choléra qui a fait des dizaines de morts ces derniers jours. Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, a déclaré samedi que son homologue du Gabon, Brice Oligui Nguema, sera compréhensif après l'arrêt de la Cour de justice internationale qui donne raison à Malabo sur un vieux contentieux territorial. La CIJ a estimé lundi que Banié, une île d'une trentaine d'hectares et 2 îlots plus petits, Cocotier et Konga, disputés depuis les années 1970 entre les deux nations, reviennent à Malabo. Les 3 îlots se trouvent au large des côtes des deux pays, dans les eaux potentiellement riches en pétrole. Le père jésuite Antoine Kerouel nous introduit à la méditation avec les lectures du 7e dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique C.
En ce dimanche, nous nous trouvons entre la solennité de l'Ascension et la célébration de la Pentecôte. Le ressuscité échappe aux yeux de ses disciples qui se préparent à accueillir la force de l'Esprit, celle qui les conduira à témoigner de Jésus-Christ aux quatre coins du monde. Les textes de la liturgie invitent à nous arrêter sur l'expérience vécue par quelques-uns des premiers disciples de Jésus. L'expérience d'Étienne, c'est celle du martyr. ses accusateurs ne supportent pas de l'entendre dire qu'il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ces paroles résonnent à leurs oreilles comme un blasphème et deviennent un motif de lapidation. Étienne meurt sous les pierres, en remettant totalement sa vie à celui qu'il appelle Seigneur Jésus. Ce récit nous livre un reportage impressionnant sur l'histoire douloureuse de la communauté chrétienne naissante, mais aussi le témoignage d'une radicale confiance en celui qui, crucifié et ressuscité, donne la vie. L'expérience de Jean, rapportée dans le livre de l'Apocalypse, est celle d'une extase rappelant que les humains sont invités à accueillir pleinement celui qui vient vers eux pour leur donner accès à l'arbre de la vie. À tous est proposée l'eau de la vie. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Comme dans la première lecture qui nous rapportait le martyre d'Étienne, ce texte se situe dans le registre de l'entrée dans une vie nouvelle. Cette entrée n'est pas le résultat d'édifiants efforts volontaristes, mais elle provient plutôt de l'accueil radical d'un don qui est fait sans réserve. Étienne donne sa vie en témoignant du Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, et dans le texte de l'Apocalypse, l'accès à une vie nouvelle est proposé à tous ceux qui se mettent en route vers l'arbre de la vie. Dans leur radicalité, ces textes nous projettent donc vers un horizon de vie. L'expérience des disciples, rapportée dans l'évangile de Jean lu ce dimanche, est celle d'une écoute. Alors que, à l'approche de la Pâque, Jésus partage avec ses disciples un repas, il livre un dernier enseignement après leur avoir lavé les pieds. Après cela, et alors que Judas a quitté le groupe des disciples, il se met à leur parler comme on parle à des intimes. Puis il prie pour ses disciples et pour tous ceux qui, au fil des générations, croiront en lui. À celui qu'il appelle son Père, Jésus demande de garder dans l'unité tous ceux qui croiront en lui et qui, de ce fait, entreront dans la plénitude de la vie. Un horizon de vie est là encore souligné. Alors que nous approchons de la fin du temps de Pâques, la liturgie de ce dimanche, placée entre l'Ascension et la Pentecôte, nous rappelle donc combien le quotidien des disciples de Jésus, jusqu'à notre quotidien à nous aujourd'hui, s'apparente à un exode hors de tout ce qui, dans notre existence, nous retient captifs de la mort. Combien ce quotidien ressemble à un voyage parcouru par des hommes, des femmes et des enfants, qui, au fil des générations, se sont offerts comme témoins du crucifié ressuscité. Combien ce quotidien prend la forme d'un pèlerinage orienté vers une acceptation à un niveau sans cesse plus intime du don de Dieu. Les uns et les autres, nous vivons dans nos familles et nos communautés, nous travaillons dans telle ou telle activité professionnelle, nous appartenons à des pays dont l'histoire est faite de moments heureux ou malheureux. En d'autres termes, nous sommes insérés dans le monde. Mais notre manière de vivre est habitée d'une espérance qui transforme notre rapport aux événements du quotidien et qui nous tient dans l'unité. Nous savons que nous sommes appelés dès maintenant à entrer dans une vie nouvelle, et nous savons qu'un jour, cette vie nouvelle nous sera donnée en plénitude.
Invité du jour.
Le grand événement jubilaire dédié aux familles, aux enfants, aux grands-parents et aux personnes âgées se déroule à Rome et au Vatican depuis vendredi 30 mai et se clôture le dimanche 1er juin avec la messe présidée par le pape place Saint-Pierre. Plusieurs familles ont fait le déplacement pour Rome. C'est le cas du couple Cédric Loma Mikala et Françoise Kitwanda Fatuma, venus de République démocratique du Congo et membres du mouvement charismatique Communauté Famille Chrétienne. Ce jubilé, disent-ils, est une occasion pour les familles chrétiennes de montrer au monde que la famille tient encore debout. Des familles solides et enracinées dans la foi existent toujours.
La famille est la cellule de base sous laquelle la société est construite. Et donc c'est très important pour l'Église, les communautés, de pouvoir s'arrêter pour regarder, réfléchir, se ressourcer, et se reconfier à Dieu qui est même l'origine de la famille. Parce que, nous le savons, le Seigneur Jésus lui-même est né d'une famille. Dans toute la plénitude de son état, il aurait pu venir sur cette terre par d'autres moyens. Mais il a décidé de venir par la famille. Donc, le Seigneur lui-même a honoré la famille, C'est ainsi que c'est important pour nous, dans l'élan de notre monde aujourd'hui et tout ce qu'il y a, de pouvoir s'arrêter pour pouvoir réfléchir, méditer, se ressourcer davantage sur cette cellule essentielle à notre humanité.
Madame, quelque chose à ajouter ?
Je peux dire que ces jubilés nourrissent en nous de l'espoir, de l'espérance. Le monde essaye de nous faire comprendre aujourd'hui qu'il y a une destruction totale de la famille, alors que la famille continue d'exister. Donc du coup, ces jubilés portent dans nos cœurs et dans la plupart de familles beaucoup plus d'espoir pour croire que il y a encore dans ce monde, il y a encore dans l'Église de familles chrétiennes qui sont fières de ce statut-là et qui continuent encore à prôner les valeurs familiales chrétiennes à l'exemple de la première et de la sainte famille de l'Église qui est la famille de Jésus-Christ.
Madame, qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui, être une famille ?
Être une famille, je peux le résumer en un mot simple, pour nous ou pour moi, signifie un lieu où un homme uni à une femme vive le bonheur selon le Seigneur, vive de l'amour en le partageant également avec ces dons gratuits des dieux qui sont les enfants que Dieu peut donner à l'union d'une femme avec un homme. Donc du coup, pour nous ou pour moi, la famille signifie simplement un lieu que le Seigneur met à la disposition de l'homme pour pouvoir expérimenter et vivre de l'amour.
J'ajouterai à ce qu'a dit mon épouse, que la famille, dans une approche un peu plus sociologique, c'est ce lieu où chaque individu apprend les valeurs de base de la vie en société. C'est ce lieu-là où nous apprenons à savoir dire merci, savoir dire pardon, savoir s'excuser, savoir accepter les limites des autres et regarder l'avenir ensemble avec ce que nous avons comme atouts, qualités, faiblesses. C'est ce lieu de socialisation où on est inséré dans une société, où on appartient à une communauté et on regarde l'avenir avec beaucoup d'espoir et de courage.
Vous insistez beaucoup sur le fait d'une famille d'être chrétienne, d'où la question, quelle est la place de la foi dans la construction et le maintien de la solidité de la famille?
La famille est venue même de l'exemple que le Seigneur lui-même nous a montré. Dieu lui-même a choisi de venir dans la famille. Dieu lui-même a fait l'expérience de ce qu'une famille peut apporter. Alors, la foi devient d'autant plus importante parce que si Dieu lui-même a décidé qu'il vienne de la famille, c'est en Dieu lui-même que nous pourrons trouver les moyens, les atouts nécessaires à pouvoir préserver, à pouvoir atteindre son dessein de ce que la famille a comme objectif et mission dans la vie de tous ceux qui sont nés. Et c'est ce travail-là que même nous, comme couple, comme famille, membres de la communauté famille chrétienne de Kinshasa, nous faisons depuis 41e année où la communauté famille chrétienne existe, pour nous montrer que sans le Seigneur, vous savez, nous sommes des humains. Et comme humains, je l'ai dit un peu plus tôt, que nous avons des faiblesses, nous avons des failles. Alors, c'est le Seigneur lui-même qui nous donne cette capacité de se dépasser, de s'accepter et de regarder l'avenir ensemble. Parce que s'il fallait juste s'arrêter sur des considérations rationnelles, à un certain moment, on devrait tous trouver des raisons pour lesquelles on devrait sortir de nos familles, nous séparer de nos frères, de nos sœurs, de nos parents. Mais grâce à la présence du Seigneur comme ce partenaire présent, permanent de la famille où lui-même a résidé, ça nous donne le moyen, les énergies et les ressources humaines et surtout spirituelles de pouvoir assumer et vivre la mission de la famille telle que le Seigneur l'a instituée.
Propos recueillis par Fabrice Baguendekere.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabolo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.